Donald Trump renverse les codes de la diplomatie mondiale. Et oui, et on va essayer d'en étudier les conséquences. On analyse ces retombées diplomatiques de l'altercation, notamment altercation spectaculaire s'il en est, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Et cette analyse, elle est faite en compagnie de Sébastien Lévy, les journalistes spécialistes des États-Unis. Et ma chère Lucie, il a eu la gentillesse de répondre à vos questions.
Bonjour Sébastien Lévy.
Oui, bonjour Lucie.
Alors, je l'ai dit en introduction, Sébastien Lévy, hein, la rencontre houleuse à la Maison Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky n'en finit pas de faire des vagues, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots. Cette rencontre a secoué le monde, gêné le monde diplomatique. Ce n'est pas la première fois que les dirigeants du monde sont confrontés au style assez brutal de Donald Trump. Et là, c'est un chamboulement dans les codes de la diplomatie mondiale, n'est-ce pas ?
Complètement, c'est un chamboulement des codes de la diplomatie mondiale, mais qui va bien au-delà des problèmes de forme. On est habitué, en fait, avec Trump, à beaucoup de brutalité dans les rapports entre chancelleries, mais il n'y avait pas d'impact aussi manifeste, aussi fort sur, je dirais même, le fond même des problèmes. Si on prend par exemple son premier mandat, Trump parlait beaucoup, mais finalement il avait gardé un certain nombre de fondamentaux de la diplomatie américaine, comme le maintien dans l'OTAN, comme des armes livrées à l'Ukraine, et il faut d'ailleurs lui reconnaître ça, des armes dès l'époque à l'Ukraine pour se défendre. Et puis globalement, vous aviez encore une diplomatie sur le fond assez traditionnelle, même si sur la forme, elle déviait des codes classiques. En revanche, là, ce qui se passe, c'est qu'on assiste non pas seulement à un mouvement d'humeur de la part de Trump, mais véritablement à un renversement d'alliance et une remise en cause de tous les fondamentaux de la diplomatie mondiale depuis 1945. Donc on est passé de juste Trump fait sa crise à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus significatif, de beaucoup plus dramatique également. On est dans un autre monde qui s'est ouvert le 28 février. Et depuis, vous avez d'ailleurs une réaction de la plupart des chancelleries dans le monde entier. On a changé de monde. Et je pense que c'est le principal enseignement de ces altercations.
Alors, effectivement, c'est à ce style décomplexé et peu soucieux des conséquences de ces actes que les dirigeants auront affaire à l'avenir, alors du coup.
Et complètement, parce que la vraie différence avec son premier mandat, c'est que Trump aujourd'hui n'a plus de ce qu'on appelait les « adults in the room ». C'est-à-dire, dans son premier mandat, vous aviez un certain nombre d'inspirations, de choses que Trump voulait faire, mais il était un petit peu contrôlé par son entourage, par son vice-président, par son secrétaire à la Défense, par son secrétaire d'État, son ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, vous n'avez pas ça. Et puis Trump est beaucoup plus préparé qu'il ne l'était il y a 8 ans, c'est-à-dire qu'il a préparé en fait un certain nombre d'actions en politique intérieure, mais aussi en politique internationale. Il est prêt, il a des équipes aujourd'hui qui lui sont complètement loyales et qui ne veulent pas le contrôler, mais au contraire, lui permettre de dire absolument tout ce qu'il veut et de faire tout ce qu'il fait. Son vice-président est un bon exemple. Son vice-président a été complètement clé dans cette rencontre. Il a, je dirais même, poussé Trump à aller encore plus loin dans sa quasiment répudiation et dans son humiliation par rapport à Zelensky. Donc effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et les chancelleries occidentales, notamment, doivent apprendre à vivre avec, non plus encore une fois, Trump, le disrupteur, celui qui veut challenger un peu l'ordre établi, mais celui qui veut le casser. Et je pense que c'est la principale différence entre les deux mandats. Trump n'est pas là pour aménager les choses ou les modifier. Il est là pour casser un ordre et le remplacer par un nouvel ordre. Et on n'a pas nécessairement aujourd'hui le manuel par rapport à ça, parce qu'il faut tout réinventer en un temps record. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps, la guerre, elle continue. L'Ukraine continue d'être attaquée. Et les armes aujourd'hui qui sont bloquées par Trump, les Ukrainiens en ont besoin. Il est très important pour les Européens de prendre le relais le plus rapidement possible. Mais évidemment, vous ne changez pas d'alliance comme ça en quelques jours. Donc c'est là où il y a une grande instabilité, une grande nervosité au sein des chancelleries occidentales, parce qu'il faut réinventer un monde en n'ayant pas le manuel. Et ça, c'est tout à fait déstabilisant.
Alors, les dernières nouvelles font cependant état de tentatives de réconciliation de la part du président ukrainien. Alors, est-ce que ça veut dire que Donald Trump a gagné son pari, si tant est que c'était un pari ?
Oui, on peut voir ça comme ça. Vous savez, il a un pistolet sur la tente et il essaie de gagner du temps, il essaie de recoller les morceaux. Quand tu vois ce qu'a voulu faire Trump, ça n'est pas une technique de négociation, ça n'est pas un moyen de faire revenir l'Ukraine ou de faire plier l'Ukraine. Parce que c'est pour faire plier l'Ukraine, ça n'est pas pour défendre l'Ukraine. Donc aujourd'hui, Zelensky essaye de sauver ce qui peut être sauvé. Mais si c'est une victoire, c'est une victoire surtout pour Vladimir Poutine et pas tellement pour Donald Trump, parce que Zelensky aujourd'hui est vraiment dans une tenaille. Il essaie de sauver ce qui peut être sauvé, mais j'insiste, aujourd'hui ça n'est pas une victoire pour la diplomatie si Zelensky capitule et si Zelensky accepte le plan de paix, je mets paix avec des guillemets. c'est une capitulation en bonne et due forme, et c'est une capitulation qui est au bénéfice de Poutine. Donc si c'est une victoire, c'est vraiment une victoire, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, à la pie russe. C'est vraiment une victoire beaucoup plus pour les Russes que pour l'ordre international. Mais encore une fois, il faut voir ça comme un moyen pour Zelensky de ménager l'ego, parce que pour Trump, tout est affaire d'ego. Zelensky, aujourd'hui, est dans son droit. Il essaye de ménager la susceptibilité et l'orgueil de Trump. Pas sûr qu'il y parvienne, parce que on sent carrément une forme de jouissance de la part de Trump à faire plier Zelensky, et il va sans doute continuer à pousser dans cette voie-là, pour qu'il lui, de son point de vue, effectivement, lui réussit plutôt bien.
Mais aujourd'hui, il y a d'autres conséquences sur d'autres pays. On a vu par exemple l'Iran qui se montre plus frileux à s'adresser directement aux États-Unis, les pays européens qui collectivement semblent chercher en hâte d'autres solutions pour assurer leur protection sur le sol européen. Est-ce que ça pourrait avoir cet effet backfire finalement sur la diplomatie américaine à l'avenir ?
Alors, votre question est très intéressante. Si jamais vous avez en tête une diplomatie américaine traditionnelle, évidemment que ça va backfire. Il y aura des effets extrêmement négatifs. D'ailleurs, à ce sujet, il est extrêmement étonnant de ne pas voir des grandes voix, notamment Obama, mais aussi Bush ou Clinton, parler, parce que c'est la diplomatie américaine, c'est la puissance américaine qui est remise en cause. En revanche, quand on est un Trumpiste et quand on est Donald Trump, le fait que justement il y ait un retour de bâton contre la diplomatie américaine, ça n'est pas son problème, parce que pour lui, la diplomatie américaine, le leadership américain, c'est un jeu de dupes. Il n'a jamais adhéré à cette vision des choses. Donc le fait que les États-Unis s'affaiblissent, et s'affaiblissent en temps réel à vitesse grand V, c'est quelque chose qui ne dérange pas Trump, parce que Trump a une vision des rapports du monde qui est uniquement transactionnelle, c'est-à-dire, et plus qu'en transactionnelle, pécuniaire, parce que vous pouvez faire du transactionnel sur des aspects diplomatiques, c'est complètement compréhensible. Ce qui intéresse Trump, c'est vraiment une approche extrêmement pécuniaire des choses, essayer de gagner des deals commerciaux, ça c'est beaucoup plus important pour lui que d'assurer un leadership américain, et puis c'est la loi du plus fort par rapport à une vraie diplomatie traditionnelle de leadership américain. Trump n'aspire pas à être le leader du monde libre, parce qu'il ne croit pas à cette idée d'un monde libre et d'une diplomatie où les Américains seraient leaders par le soft power, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les transactions financières, c'est le business, et d'une certaine façon, il est plus à l'aise avec des hommes forts comme Xi Jinping, comme Poutine, qu'avec des démocraties, ça ne l'intéresse pas. Donc, d'un point de vue de diplomatie américaine traditionnelle, ce qui se passe est une catastrophe, qui aura des conséquences à très long terme. En revanche, dans la vision du monde de Trump, d'une certaine façon, il applique quelque chose qui lui correspond complètement et il est absolument ravi. Donc pour lui, il obtient ce qu'il veut en ce moment, un nouvel ordre du monde qui soit un ordre, non plus un ordre de la diplomatie, mais un ordre la raison du plus fort et la raison uniquement du business. Dans ce monde-là, Trump est comme un poisson dans l'eau et il obtient ce qu'il veut en ce moment.
Alors, on a traité l'aspect relation extérieure, mais est-ce qu'en interne, cette posture, elle est bien perçue par les électeurs de Donald Trump et par les Américains en règle générale ?
Écoutez, il n'y avait pas de décrochage de Trump dans les sondages aujourd'hui. Vous avez, il est environ à 47-48, ce qui n'est pas terrible pour un président après un mois et demi d'exercice. Mais il faut savoir que Trump, contrairement à ce qu'on entend énormément dans les médias, n'a absolument pas été bien élu. Il a été élu légitimement, il n'y a aucun problème. Mais il a remporté l'élection avec 49,8% contre 48,3%. Donc on ne parle pas d'un mandat absolument gigantesque. C'est d'ailleurs la victoire la plus faible en valeur absolue en termes de nombre de voix depuis celle de Richard Nixon en 1968. Donc il n'a jamais eu un gros mandat, ce qui veut dire que, d'une certaine façon, aujourd'hui, il est dans son étiage traditionnel qu'il avait lors de son premier mandat. Trump n'a jamais été un président populaire, ça ne l'intéresse pas d'être un président populaire. Et aujourd'hui, il ne voyait pas de décrochage massif de son électorat qui continue de le suivre. Il est fort possible d'ailleurs que si son électorat décroche, ce sera beaucoup plus sur des problèmes de politique intérieure, notamment sur l'inflation, beaucoup plus que sur ces sujets-là qui finalement sont assez loin pour l'électeur traditionnel américain et qui a plutôt une tendance isolationniste et qui se fiche pas mal, encore une fois on parle d'électeurs trumpistes, pas des électeurs républicains traditionnels, mais les électeurs qui ont voté Trump, aujourd'hui ils attendent surtout une maîtrise de l'immigration et de l'inflation, et c'est sur ces sujets que Trump sera jugé, beaucoup plus que sur ce qui se passe en Ukraine, ce qui est sans doute une erreur, sans doute d'appréciation de leur part, parce que la puissance américaine, la puissance économique américaine, elle dépend aussi évidemment de son leadership diplomatique et politique. Mais hors cela, les conséquences, elles auront lieu beaucoup plus tard. Pour l'instant, ça n'est pas véritablement ce qui peut avoir un impact majeur sur l'électorat américain.
Eh bien, ouais, Sébastien Lévy, nous suivrons, continuerons de suivre ce dossier avec vous, je pense, en tout cas pour les 4 ou 5 prochaines années. Merci beaucoup, Sébastien Lévy, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis, correspondant des Cahiers Bernard Lazare à New York. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, Lucie, à bientôt.